Il est 10h03 sur Demoiselle, merci de nous avoir rejoints. C'est parti jusqu'à 11h pour votre émission Parole d'animaux, comme un samedi sur deux, aux côtés de Rachel. Bonjour Rachel.
Bonjour Pierre. Bon, ça va pour ce samedi?
Oui, parfait, parfait. Quelques heures des vacances.
Oui, vous avez de la chance, vous partez pour 2 semaines en plus.
Exactement. Bon, là, rassurez-vous, vous êtes bien accompagné également.
Ça me rassure.
Mickaël, qui sera, je crois, si je ne dis pas de bêtises, avec vous pour votre prochaine émission.
Tout à fait.
C'est le même que moi. Sauf qu'il y a moins de cheveux.
Bon, d'accord.
Et un peu plus d'âge.
Bon, je suis prévenue. Très bien, mais je crois que j'avais rencontré déjà.
Je crois que vous l'avez déjà vu. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme ce matin,
allez,
ma chère Rachel?
On est parti pour Parole d'animaux. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parole d'animaux sur Demoiselle FM. Alors, aujourd'hui, nous recevons Gilles, cofondateur du CAPEN 17, une association qui intervient notamment auprès des animaux exotiques en divagation et qui joue un rôle essentiel dans la prise en charge de nombreux animaux dont personne ne sait vraiment quoi faire. Mais il est avant tout pompier et voilà pourquoi nous l'invitons aujourd'hui. Bonjour Gilles, merci d'être avec nous aujourd'hui à nouveau, car vous étiez déjà venu dans une émission précédente de Parole d'animaux.
Bonjour, oui effectivement.
Alors pour commencer Gilles, pouvez-vous vous présenter et nous raconter votre parcours rapidement?
Ben, j'ai une formation d'animalier, généraliste, et j'ai rejoint l'équipe des pompiers animaliers il y a 12 ans maintenant, en tant qu'expert pour le département. Parallèlement à ça, je me suis installé aussi en micro-entreprise afin de diffuser de la formation et de l'assistance technique dans le domaine animalier, faune sauvage.
Alors, très bien, alors en quoi consiste votre activité de formation et de conseil par rapport à votre auto-entreprise?
Alors c'est essentiellement destiné aux administrations.
D'accord.
Et pas trop particulier. Bon, en même temps, j'ai pas trop de demandes. Mais, et puis éventuellement à des écoles qui forment des vendeurs animaliers.
Très bien. Alors, vous travaillez notamment avec le service départemental d'incendie et de secours de Charente-Maritime. Alors, quel est votre rôle auprès des pompiers?
C'est essentiellement un rôle de formation et d'accompagnement et d'identification sur certaines espèces qu'on rencontre très peu.
D'accord. Et là, vous avez quand même des demandes par rapport à ça, justement, des pompiers qui s'intéressent
De
à ça.
Plus en plus, parce qu'on se trouve
confronté
à des animaux qui arrivent, par exemple, dans des cartons de fruits et légumes. C'est pas forcément des détentions illégales ou des mauvais comportements de gens, mais tous les cas de figure sont envisageables.
D'accord, il y en a de plus en plus qui sont importés comme ça dans les fruits et légumes.
Ça arrive assez régulièrement, oui.
D'accord, je crois qu'il y avait une question de migale une fois qui avait été.
Oui, elle est chez moi, elle va très bien.
Elle
est arrivée dans un carton de bananes en provenance de Côte d'Ivoire.
Donc ça peut arriver qu'on trouve, en fin de compte, même dans les étalages aussi, ou c'est quand même surtout dans les caisses qui arrivent?
Généralement, les personnes qui mettent en rayon tombent dessus, dans le rayon, c'est plus rare.
Oui, d'accord, oui, quand même, parce que c'est trié, c'est ça, c'est surtout quand ça arrive des autres pays. Alors justement, donc, il y a les pompiers qui sont confrontés de plus en plus à ces cas-là, parce que c'est aussi remis à l'état sauvage, parfois on en trouve à l'état sauvage, ces animaux domestiques, alors parce que les gens peut-être se débarrassent de leurs animaux, ils n'en veulent plus, alors ils se mettent...
Ça arrive aussi. Bien sûr, on a entendu parler d'un cobra proche de Toulouse.
Oui, c'est vrai, tout récemment là.
Bon, il sort bien de chez quelqu'un celui-là,
Mais il est dangereux.
Complètement, oui.
Voilà, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas faire n'importe quoi.
Et non, donc les pompiers sont formés pour capturer ces animaux-là. Par contre, c'est pas à eux d'en assumer le maintien. Donc la création de cette association a pour unique but... c'est de répondre à ces problématiques de placement définitif.
Alors quand vous parlez de cette association, c'est le CAPEN 17.
Oui, bien sûr.
Qui est situé
Le siège est à Saint-Palais-sur-Mer.
À Saint-Palais-sur-Mer, d'accord. Et est-ce que donc par rapport aux pompiers, est-ce qu'il y a des personnes référentes dans le domaine animal et quels sont leurs rôles d'ailleurs?
Oui, alors aujourd'hui, dans le département 17, il y a 25 référents animaliers. Donc c'est des pompiers professionnels ou volontaires qui ont choisi d'intégrer la spécialité animalière.
D'accord. Ah oui, très bien. Donc déjà, ils ont quand même quelque chose, ils ont le feeling avec les animaux pour pouvoir se spécialiser ensuite.
C'est un recrutement interne.
D'accord.
Et suite à ce recrutement, il y a une première semaine de formation vraiment spécifique animalière. Et ensuite, il y a des journées de de formation au maintien des acquis régulièrement dans l'année.
Oh oui, d'accord, très bien. Et alors, donc, on a dit combien il y a de référents animaliers,
vous avez 25.
25, d'accord. Donc, en Charente-Maritime ?
En Charente-Maritime.
Ah oui, oui, d'accord, ok.
Plus deux pompiers vétérinaires.
D'accord, ils se déplacent dans toute la Charente-Maritime alors.
Ah oui, on couvre tout le département.
Tout le département, d'accord, très bien. Bon, merci Gilles. Quand on parle d'animaux exotiques ou sauvages, beaucoup de personnes ne savent pas forcément comment réagir lorsqu'elles en croisent un. C'est justement ce que nous allons voir après une pause. On revient tout à l'heure sur Demoiselle FM.
C'est le week-end, Demoiselle. Il est 10h13 sur Demoiselle. Si vous nous rejoignez, on poursuit notre émission Parole d'animaux avec vous, Rachel, et votre invité ce matin. C'est Gilles Bétony, co-président de la CAPEN 17.
Voilà, de retour dans Parole d'animaux. Alors, on continue notre émission aux côtés de Gilles Bétony. Alors, Gilles, pour reprendre notre conversation de tout à l'heure, si un particulier découvre un animal exotique dans la nature, quelle est la première chose à faire ?
Alors la première chose à faire, c'est de ne pas se mettre en danger déjà.
Déjà.
Donc si la personne ne connaît pas l'espèce à laquelle il a affaire, l'idéal c'est de prendre une photo.
D'accord.
Et de contacter la mairie. C'est un animal en divagation, c'est la responsabilité du maire qui est engagé. Ça sera au maire de trouver et de mettre en place les moyens pour capturer l'animal et ensuite de trouver une structure.
Alors si par exemple on en trouve un dimanche, on peut contacter quand même le maire ?
Alors, il y aura pas forcément le maire, mais un élu d'astreinte.
D'accord.
Et qui va prendre le relais. Voilà.
D'accord, il y a toujours quelqu'un à la mairie qui est censé normalement.
Normalement, il y a un élu d'astreinte le week-end. Et si possible, pour éviter de perdre du temps, la personne peut aussi directement contacter les pompiers.
D'accord, ok.
Qui partiront en intervention tout de suite, au lieu d'attendre l'appel du maire.
Ah, d'accord, très bien. Alors, comment savoir si l'on fait face à un animal de la faune locale ou espèce exotique ?
Justement, c'est compliqué. Et l'intérêt là, d'une photo de qualité permettra, en la transmettant aux pompiers, via le CODIS, elle arrivera à un référent animalier de garde qui pourra identifier l'animal.
D'accord, très bien. Donc d'abord envoyez, alors de toute façon déjà on appelle les pompiers, oui. Ils nous disent envoyez-nous une photo à tel donc numéro de téléphone ou quelque chose comme ça, et à ce moment-là on sait si c'est un animal sauvage ou exotique, voilà, qu'on appelle exotique, qui vient d'un autre pays par exemple.
Voilà, exactement, parce d'accord. que la conduite à tenir ne sera pas la même. Si on a affaire à un animal de faune locale et qui est en bonne santé, il n'y a absolument rien à faire, on le laisse vivre sa vie, et par contre si c'est un animal de faune exotique, il doit être extrait du milieu naturel, qui n'est pas le sien en fait.
D'accord, mais surtout ne pas y toucher en fait.
Alors ne pas y toucher pour plusieurs raisons, parce que quand on n'est pas sûr de l'espèce, il y a forcément les risques de blessures, par morsures, griffures, coups, etc. Mais il y a aussi, dans certains cas, un risque zoonotique, de transmission de maladies d'un animal à l'homme, et qui n'est pas négligeable.
D'accord. Alors on citait, je pense qu'on pourrait citer l'exemple de la tortue, par exemple, avec le coup de la salmonelle.
Exactement, les tortues aquatiques sont très porteuses de salmonelle, porteuses saines. Donc voilà, alors récupérer une tortue qui est blessée, ça part d'un bon sentiment, mais ça doit s'accompagner de gestes sanitaires vraiment importants.
Alors on parle bien de tortues, par exemple, exotiques, c'est-à-dire que, c'est, par exemple, je ne sais pas, la tortue de Floride, il y a la Hermann, je crois aussi, celle qui couramment... c'est Hermann,
Non, tortue d'Hermann, c'est une tortue terrestre européenne.
D'accord.
Et tortue de Floride, forcément, d'où son nom, exotique. Alors d'accord. On en a vraiment plein dans le département, mais on a aussi dans le département la Cistude d'Europe, qui, elle, a tout à fait sa place. Et dernièrement, on en a récupéré deux blessés qu'on a acheminés via des bénévoles du centre de soins à Audenge, parce que le centre de soins est à Audenge.
D'accord, très bien. Alors c'est vrai que je dis ça parce que en fait, quand on trouve une tortue, on se dit tout de suite, c'est pas si inoffensif, je vais la prendre, je vais la mettre dans un carton, etc., etc. Ouais. Mais effectivement, il faut faire attention, il faut prendre des gants, par exemple, ou je suppose, ou mettre un torchon, quelque chose, un vêtement, parce qu'il ne faut pas la toucher directement.
Alors la toucher directement, c'est possible, mais alors il faut avoir du gel hydroalcoolique sur soi.
Voilà. Et puis, c'est pas toujours le cas.
Avec la Covid, on s'y est un peu habitué, mais c'est une précaution, c'est un protocole de travail. Quand on travaille avec des tortues aquatiques, quand on les a manipulées, c'est forcément désinfection des mains.
Oui, d'accord.
Et il ne faut pas penser non plus que toutes les tortues sont inoffensives.
Voilà.
On a récupéré, par exemple, une tortue serpentine en bord de Charente à Sainte. Elle fait environ 10 kilos. Et là, la morsure serait vraiment Alors d'une part très douloureuse et sévère.
D'accord. Et puis après, il peut y avoir infection aussi, hein,
complètement.
Certainement. D'accord. Alors après, pour parler un petit peu d'autre chose, quel est le, pourquoi est-il important, lorsque c'est possible, de rester sur place jusqu'à l'arrivée des personnes compétentes ?
Alors c'est important pour deux raisons principales. On va gagner du temps déjà, parce que quand les secours vont arriver, enfin quand les pompiers vont arriver, au lieu de chercher où est l'animal, bon bah la personne pourra se signaler déjà lui. Et puis, donc voilà, on gagne de temps. En plus, on ne perd pas l'animal de vue. Parce que ça arrive aussi parfois, hein, les pompiers arrivent sur place, il n'y a plus l'animal. Donc voilà, en fonction de l'espèce à laquelle on a affaire, ces deux points-là sont importants. Et aussi, si l'animal a été manipulé, et ben là, les pompiers pourront conseiller la personne par rapport aux gestes qu'il faudra mettre en place par la suite.
Ok, très bien. Je voudrais savoir aussi, quel est le rôle du maire de la commune dans ce type de situation ?
Ah ben, je vous l'ai dit, c'est toujours la responsabilité du maire quand on a affaire à un animal en divagation.
D'accord.
Voilà.
Donc il doit être au courant, peut-être aussi quand il y a un animal de trouver sur sa commune, comme ça. Il doit être mis au courant de toute façon.
De toute façon, si c'est un animal qui est exotique, il va être capturé par les pompiers.
D'accord.
Et les pompiers vont s'adresser à la mairie.
Voilà, d'accord. Ok. Donc il est forcément informé.
Voilà, il est forcément informé.
Et alors, c'est lui le responsable.
Après, l'association qu'on a créée, c'est pour répondre à ces problèmes. Hein. Donc libre à eux après de se mettre en rapport avec nous.
D'accord, très bien. On en reviendra de toute façon par rapport au CAPEN 17. Beaucoup de personnes ont le réflexe de vouloir aider directement l'animal, comme on disait. Alors, pourquoi déconseillez-vous de manipuler, alors, non seulement par rapport donc, aux maladies, des choses comme ça qui peuvent être touchées, aux morsures. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres précautions à prendre par rapport justement le fait qu'ils interviennent ? Est-ce qu'ils peuvent garder chez eux, par exemple, l'animal ?
Pas tous, ça dépend.
Voilà.
ça dépend de l'espèce.
Oui, ils n'ont pas forcément le droit, je pense.
Non, non. Non. C'est simple, hein. Il y a des animaux qui sont en détention libre.
Voilà.
C'est par exemple les animaux qu'on peut acheter en animalerie. Donc là, pourquoi pas. Après, il y a des animaux qui sont soumis à autorisation de détention. Et comme par exemple la tortue d'Hermann. Avec autorisation de détention, on peut en avoir jusqu'à 6 individus. Et après, il y a des espèces qui sont soumises à certificat de capacité.
D'accord.
Donc voilà, la législation change chaque année. Hein, donc des espèces qui aujourd'hui sont en autorisation de détention seront peut-être soumises à un certificat de capacité dans les années à venir.
D'accord, très bien. Et je voudrais donc revenir au CAPEN 17. Alors, quelle est votre mission pour résumer le CAPEN 17 ? Dites-moi.
Alors c'est un acronyme, hein, ça veut dire Centre d'accueil provisoire d'espèces non domestiques.
D'accord.
Donc le rôle, c'est de récupérer ces animaux-là.
D'accord.
En accord avec la mairie correspondante.
Oui.
Alors s'il y a des soins, on a un vétérinaire dans l'association, donc s'il y a des soins à faire, ils seront faits. Ensuite, il y a la partie légalisation de l'animal. Pour enfin trouver une structure définitive, une structure d'accueil définitive.
D'accord.
Qui peuvent être alors, des particuliers dans certains cas, mais la plupart du temps, c'est des structures professionnelles.
D'accord, ok, très bien. Alors, j'ai une question à vous poser. Quelle est la différence entre un centre de soins pour la faune sauvage et le CAPEN 17 ?
Alors, un centre de soins a pour vocation, quand c'est possible, de relâcher l'animal là où il a été trouvé. Donc, un animal blessé de faune locale, sera pris en charge par le centre de soins correspondant et son état de santé est redevenu à la normale, il sera relâché. Donc le travail est complètement différent. Comme on travaille essentiellement avec de la faune exotique, ces animaux-là ne seront pas relâchés.
D'accord, ok, oui. Je vois la différence, d'accord. Alors, vous, quelles espèces prenez-vous principalement en charge, pour résumer un petit peu les espèces ?
Alors, on a beaucoup de tortues. Mais ça ne se limite pas à ça. On a aussi quand même beaucoup de serpents en divagation, des oiseaux, perroquets.
D'accord.
Et puis des invertébrés, donc mygales, scorpions.
D'accord.
Voilà. Mais on peut avoir potentiellement un peu de tout. Hein.
Alors c'est vrai qu'après, on peut confondre. Alors quand un moineau sauvage qui est blessé, là ce n'est pas vous, ça va être le centre de soins d'Oléron par exemple.
Exactement.
Voilà, donc vous, c'est vraiment essentiellement les animaux exotiques dont vous vous occupez.
Oui.
Et vous faites en plus intermédiaire.
Voilà, et on fait aussi point relais pour la faune locale. En attendant d'acheminer l'animal au centre de soins correspondant.
Ah oui.
Donc là, c'est une prise en charge qui va de 24 à 48 heures, jamais plus. S'il y a besoin d'intervention vétérinaire d'urgence pour stabiliser l'animal, là encore une fois, ce sera notre vétérinaire qui s'en chargera. Et voilà. Donc, mais ça, c'est pas la vocation première du centre. C'est plus par rapport à la demande qu'on a eue de centre de soins qu'on s'est proposé point relais.
Oui, d'accord. Très bien. Merci pour ces explications. Pourquoi certaines espèces exotiques posent-elles des problèmes particuliers lorsqu'elles sont relâchées dans la nature ?
Alors, elles exercent une pression concurrence avec les espèces locales. Si on reprend l'exemple classique de la tortue de Floride, dans notre département, elle rentre en compétition avec la cistude d'Europe. Et le régime alimentaire n'est pas le même. D'accord. Elle est beaucoup plus vorace. Et voilà, donc il y a une pression sur le milieu naturel qui est défavorable pour la faune locale.
Oui, donc voilà, elle rentre en concurrence et ça peut détruire la faune locale directement, quoi, au fur et à mesure des années en tout cas.
Exactement.
D'accord, donc un conseil aux auditeurs, c'est-à-dire ne relâchez pas vos animaux, vos tortues à l'état sauvage. D'abord, peut-être que certaines ne survivront pas en plus. Hein. Et puis voilà, ils font appel à vous, ils font appel au maire, ils font appel à qui quand ils veulent... pas se débarrasser, mais ils veulent en finir avec l'animal.
Alors, selon l'espèce, je leur conseillerais plutôt de se rapprocher de l'OFB ou de la préfecture, des services compétents.
D'accord.
Mais oui, il faut éviter. D'autant plus qu'avec le dérèglement climatique, les espèces exotiques trouvent des climats qui leur conviennent bien maintenant, notamment en Charente-Maritime. On peut prendre l'exemple du serpent roi de Californie qui est classé espèce exogène envahissante en Espagne et qui remonte tout doucement vers le nord.
D'accord.
Donc on peut s'attendre à en trouver prochainement chez nous.
D'accord, okay.
Et c'est un serpent dans la nature qui consomme principalement d'autres serpents. Donc on a déjà une faune qui est très critique, en déclin, concernant les serpents du département. Donc si en plus on introduit un prédateur qui n'est pas naturel... C'est une catastrophe.
Ah oui, c'est sûr. D'accord, très bien. Alors, ces dernières semaines, l'actualité a beaucoup parlé de ce cobra retrouvé en liberté. Ce type d'événement est-il exceptionnel ou ça devient de plus en plus courant ?
Alors, c'est très difficile d'estimer ce genre d'animaux en termes de nombre, parce que c'est des animaux qui sont muets, très discrets. Mm-hmm. Donc, je pense qu'il y en a vraiment beaucoup plus qu'on ne croit. Et on sera certainement amené à
confronter davantage
en plus.
De situations
complètement.
D'accord.
Il faut savoir que la première bourse d'échange au monde est en Allemagne. Et en Allemagne, il y a des animaux qu'on a le droit de vendre, mais qu'on n'a pas le droit de détenir en France.
Oui, d'accord. Okay.
Donc c'est vraiment pas très loin, on peut aller faire ses courses.
D'accord, oui c'est vrai. Alors au-delà du danger représenté par l'animal lui-même, cela soulève également la question de la prise en charge médicale des envenimations, si j'ai bien dit le terme. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce sujet est complexe en France ?
Parce qu'en France, il y a des restrictions quant à l'utilisation de certains sérums.
D'accord.
Donc, en cas d'envenimation, le premier réflexe, c'est de téléphoner à la banque de sérums antivenimeux. Et qui guideront la personne mordue ou piquée. Et c'est vraiment très compliqué d'arriver aux urgences sans avoir identifié l'espèce qui a envenimé la personne.
D'accord, très bien. Donc j'ai l'information nécessaire. Alors, ces situations nous amènent à réfléchir plus largement à notre rapport aux animaux sauvages et exotiques, ainsi qu'aux conséquences de certains comportements humains. On marque une pause et on se retrouve juste après pour la fin de notre émission.
Il est 10h38 sur Demoiselle, suite de votre émission Parole d'animaux. Et comme un samedi sur deux après le flash de l'info d'ici, c'est la News Info avec vous, Rachel.
Exactement. Alors aujourd'hui, dans la News Info, direction l'île d'Oléron, nous partons à la découverte du Marais aux oiseaux. Ce centre de sauvegarde accueille et soigne chaque année de nombreux oiseaux sauvages blessés ou en difficulté avant leur retour dans la nature. Alors pour mieux comprendre ses missions et son rôle dans la protection de la faune locale, j'ai rencontré Catherine Lemarchand, responsable du site. Elle nous présente le Marais aux oiseaux et nous explique son fonctionnement.
Ce qu'il faut savoir, c'est que le Marais aux oiseaux a plus de 40 ans. Donc, il a été créé en 1981, au cœur de l'île d'Oléron, sur des terrains départementaux. Donc, pour ambition, en fin de compte, de participer à l'éducation de l'environnement du grand public. Donc, par le biais, si vous voulez, d'un parc de vision, hein, qui représente à peu près 10 hectares, hein, avec des bois et des marais, donc tout ça, bien sûr, on peut côtoyer justement quelques espèces locales, voilà, et un centre de sauvegarde qui, lui, par contre, n'est pas visitable et qui accueille à peu près 2000 animaux par an, dont 75% d'oiseaux. Donc, voilà. Pendant à peu près 25 ans, le Maraud aux oiseaux a été géré par une association et depuis 2007, il a été repris par le conseil départemental de la Charente-Maritime, justement, ce qui a permis de bénéficier de moyens supplémentaires, entre autres l'amélioration du centre de sauvegarde en créant un nouveau bâtiment pour les soins et pour l'alimentation et la restructuration des volières. Donc voilà. Ce qu'il est important aussi de signaler, c'est que l'on fait partie du réseau de centres de soins de la Nouvelle-Aquitaine, hein, donc qui regroupe 9 centres de soins et de sauvegarde, on va dire, sur la région. Et en plus, on est affilié à l'UFCS, donc c'est l'Union française des centres de sauvegarde. Donc c'est une association qui est à l'origine, en fin de compte, de la réglementation qui gère les centres de sauvegarde.
Alors maintenant que nous connaissons mieux le Marais aux oiseaux, intéressons-nous à son fonctionnement au quotidien. D'où viennent ces oiseaux et comment s'organise le centre ? Catherine nous l'explique.
Donc, eh ben, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un centre de sauvegarde est soumis à certaines normes, hein, aussi bien pour les installations de soins que pour les installations de détention. En fonction des espèces que le centre a la possibilité d'accueillir, voilà, on est obligé d'avoir un arrêté d'ouverture. Hein, donc, c'est une validation des installations. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que le responsable du centre doit être titulaire d'un certificat de capacité donc qui est délivré par une commission, hein, qui valide ses compétences pour l'entretien et le soin des animaux sauvages. Hein, donc voilà. Donc en ce qui concerne le centre de sauvegarde du Marais aux oiseaux, on a la possibilité nous d'accueillir tous les oiseaux de France, les écureuils et les hérissons. Hein, donc comme je vous le disais, on accueille à peu près 2000 animaux, dont 75% sont des oiseaux. Qui viennent alors la plupart du temps de particuliers, hein, qu'ils déposent soit directement au centre de sauvegarde, soit dans des points relais. On a 4 points relais à l'heure actuelle qui sont répartis sur la Charente-Maritime. Et depuis à peu près 6 ans, si vous voulez, le conseil départemental a créé un poste de transporteur ayant un véhicule adapté pour le transport justement des animaux blessés.
Alors derrière cette mission de protection se cache, comme nous l'avons entendu, toute une organisation. De l'accueil des animaux blessés jusqu'à leur retour dans leur milieu naturel, Catherine Lemarchand nous détaille leur prise en charge au centre.
Quand un animal arrive au centre, donc si vous voulez, on fait une première auscultation afin de définir si les blessures nécessitent une intervention de notre vétérinaire ou pas. Mais de toute manière, tous les animaux sont détenus dans des cartons adaptés à leur taille, hein, dans un local dit d'isolement, pendant une période qui peut être plus ou moins longue, hein, en fonction de la blessure, en fonction de l'âge, etc. Donc, et après cette période, ils sont transférés en volière, et là encore une fois, c'est des volières adaptées aux espèces présentes, pour qu'ils retrouvent leur faculté de vol, si vous voulez, pour retrouver la vie sauvage.
Accidents, blessures, épuisement, les causes de prise en charge sont multiples. Mais quels animaux sont concernés ? Catherine nous explique quels pensionnaires arrivent le plus souvent au Marais aux oiseaux et dans quelles circonstances. Elle nous donne quelques conseils, nous l'écoutons.
Comme là nous sommes en pleine période de nidification, hein, donc il faut le savoir. Donc là le centre à l'heure actuelle accueille des animaux qu'il ne devrait pas accueillir, hein, parce que tout bêtement, il y a des personnes vont tailler des arbres ou des haies et vont détruire des nids de merles entre autres, et les parents ne vont pas revenir. La végétation, par exemple, au niveau de la tondeuse. Là, on a aussi des cas. Là, moi, j'ai eu des cas là, de hérissons qui étaient accidentés par une débroussailleuse qui s'est fait décaloter le haut du crâne. parce que tout bêtement, la personne a fauché l'herbe alors qu'elle était très haute, sans s'assurer qu'il n'y avait pas un animal qui pouvait soit dormir, soit gambader dans cette pelouse. Hein, donc voilà, là c'est quand même c'est dommage parce que ce sont des causes d'accueil qui pourraient être évitées en faisant un petit peu attention, quoi. Il y a aussi des collisions justement avec, là vous avez les jeunes en émancipation qui heurtent la plupart du temps des baies vitrées, si vous voulez, parce que en fin de compte ils voient le reflet de la végétation dedans. Donc, il suffirait juste de mettre des formes électrostatiques, si vous voulez, pour justement éviter ce fait d'être, ces collisions. Voilà. Et puis, la dernière petite chose, évitez de rénover vos toitures pendant cette période, parce que là encore une fois, il y a beaucoup d'oiseaux qui nichent dans les toitures. Hein, vous avez le moineau, enfin bon, voilà, vous avez différents passereaux qui nichent dans les toitures, donc c'est vrai qu'il serait opportun de repousser justement ce style de travaux.
Alors, il nous est tous déjà arrivé de croiser un oiseau ou un animal sauvage qui semble blessé ou en difficulté, mais comment réagir dans cette situation? Quels sont les bons gestes à adopter et surtout les erreurs à éviter? Catherine nous explique la marche à suivre.
Disons qu'il faut savoir que faut jamais intervenir dans la précipitation quand on découvre un animal en détresse, enfin, ou susceptible d'être en détresse. Le mieux, très souvent, c'est de téléphoner au centre de sauvegarde, donc le plus près du lieu de découverte. Donc en Charente-Maritime, il s'agit de notre centre, hein, donc vous appelez le Marais aux Oiseaux, et le Marais aux Oiseaux, avec son standard, va vous diriger vers le centre de sauvegarde. Hein. Donc voilà, parce que là, actuellement, on est en pleine période, justement, de nidification, et il y a les animaux qui sont en émancipation, donc vous avez certaines espèces, entre autres, comme on disait tout à l'heure, le merle, certains rapaces nocturnes, qui quittent le nid avant de savoir voler. Donc, si vous voulez, ça fait partie, en fin de compte, de l'élevage des jeunes, c'est normal. Donc, la meilleure chose à faire quand cet animal n'est pas blessé, quand cet oiseau n'est pas blessé, c'est de le prendre délicatement, bien sûr, alors avec des gants, hein, bien sûr, et de le remettre sur une branche à 2 mètres de haut à peu près pour justement éviter qu'il se fasse prédater par un chat ou autre.
Alors merci à Catherine Lemarchand pour son témoignage et pour son engagement auprès de la faune sauvage au Marais aux Oiseaux. Si vous trouvez un animal sauvage blessé ou en détresse, n'intervenez pas sans conseil et contactez le centre de sauvegarde du Marais aux Oiseaux au 05 46 75 37 54, puis tapez 1 pour joindre le centre de sauvegarde. Les équipes pourront vous indiquer les bons gestes à adopter. Nous passons à une pause musicale et nous revenons juste après.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night. Black.
out at night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
Les Beatles sur Demoiselle, le morceau choisi par Rachel, c'était Blackbird.
Et oui, puis on entend les oiseaux hein, derrière.
Exactement, on est dans le jardin.
Voilà, on est dans le jardin et puis on est dans l'ambiance.
Exactement.
Allez, de retour dans Paroles d'animaux, on termine notre émission avec le Capen 17, Gilles Bétony. Alors, tout à l'heure, je parlais, si on voulait, c'était mal dit, se débarrasser d'un animal, mais non, c'est pas ça, si on n'en veut plus, tout simplement, voilà, c'est trop de frais, etc., etc. Eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire? On ne va pas le mettre dans la nature, donc comment doit-on faire?
Alors je pense que le mieux c'est de se rapprocher encore une fois de la préfecture ou de l'OFB qui sont deux administrations qui sont riches d'informations. Et si on prend l'exemple de notre tortue d'Hermann, c'est une espèce qui est soumise à autorisation de détention. Donc la donner à quelqu'un, à son voisin, c'est le mettre dans une situation de détention illégale s'il n'a pas cette autorisation. Donc la première chose à faire c'est l'informer qu'il doit faire cette demande par internet. Et à partir du moment où il reçoit son autorisation de détention validée, là il peut prendre l'animal. Et il faudra ensuite simplement lui faire poser une puce électronique. C'est dans la patte arrière gauche chez les tortues par exemple. Et voilà, donc, parce qu'il y a une obligation d'identification de l'animal.
D'accord, mais est-ce qu'on doit vous contacter, vous, le KPN 17, pour avoir des conseils, justement
On peut, hein, mais...
C'est peut-être l'OFB ou...
Oui, ce sera plus... même carrément la préfecture, la DDPV.
D'accord, ils peuvent vous nous renseigner.
Ils ont un service... Oui, carrément, ils sont très performants dans le conseil.
Et puis ils ne sont pas dans le jugement, hein, j'imagine.
Pas du tout.
Donc voilà, donc si par exemple, comme je disais, pour en revenir, si on a un animal exotique, on ne sait plus quoi en faire, eh bien on peut les contacter directement pour avoir des conseils.
Voilà. Et en fonction du statut de l'animal, ils seront forts d'informations.
D'accord, donc faut pas être timide, il faut téléphoner et il y aura aucun jugement en tout cas.
Non, c'est bien ça.
Hein. D'accord. Alors justement, donc selon vous, quelles sont les principales raisons qui poussent certaines personnes à relâcher des animaux dont elles ne peuvent plus s'occuper?
Il y a plein de cas différents. Alors il y a les cas de, si on reprend les tortues, mais on a les cas aussi avec les perroquets, qui sont des animaux qui vivent au moins aussi longtemps que nous.
D'accord.
Donc quelqu'un qui profite de sa retraite pour avoir du temps et qui achète ce genre d'animaux jeunes. À un moment donné, l'animal sera livré lui-même.
Ah oui, c'est ça.
Départ en EHPAD ou décès, etc. Donc, il faut penser à ça.
Ouais.
Il y a des cas de changement de vie hein, des gens. Hein. On peut divorcer, on peut déménager. On peut, voilà. Donc, il y a vraiment plein de cas différents. Il y a aussi forcément les contraintes économiques qui peuvent arriver. Avec les augmentations d'énergie, par exemple.
Oui,
parce que
c'est vrai.
Beaucoup d'animaux exotiques, ils ne se contentent pas forcément de 20 degrés.
Ouais, voilà. Donc il faut chauffer le terrarium, par exemple.
Exactement. Donc quand il y a des hausses importantes d'électricité, nous, derrière, on constate des abandons plus fréquents.
Oui, d'accord. Oui, je comprends, mais c'est vrai qu'on arrive en plus dans un système économique qui maintenant devient assez limité. Oui. Donc les gens ne peuvent plus subvenir leurs besoins aux animaux.
Voilà.
Mais malgré eux, hein, donc ça leur fait de la peine, mais ils ne peuvent plus. Et là, dans ce cas-là, ils sont obligés de transmettre à quelqu'un d'autre, de téléphoner.
Oui, parce que en fait, le premier réflexe, ça va être de s'adresser à l'animalerie où l'animal a été acheté.
Voilà.
Sauf que les magasins d'animalerie ne reprennent pas les animaux.
Voilà.
Donc ensuite le deuxième ça va être de téléphoner au parc zoologique le plus proche mais qui n'ont pas pour vocation non plus de reprendre ce type d'animaux.
Comment faire
Voilà, donc c'est pour ça que moi mon conseil c'est plutôt de se rapprocher des administrations compétentes.
D'accord.
Qui sont riches en conseils.
On l'a bien noté, très bien. Justement, alors quels sont ces impacts, ces abandons qui peuvent avoir sur les écosystèmes locaux? Quels sont les impacts?
Le pire des impacts qu'on puisse imaginer, c'est la disparition progressive de notre faune locale.
Voilà, d'accord. On en parlait tout à l'heure, oui. D'accord. Et après, il peut y avoir d'autres choses. Par exemple, même les habitats peuvent être détériorés.
Oui, bien sûr, complètement, oui.
D'accord. Et après, ils peuvent proliférer certaines espèces, j'ai du mal à parler.
Ah bah c'est,
ils peuvent proliférer, j'imagine.
Ah oui, c'est le cas. Dans la nature, ici, on commence à trouver des espèces exotiques qui se reproduisent.
Ah oui, d'accord. Donc, puis après, voilà, la faune locale disparaît à cause de ça, de la compétition,
ouais,
en fin de compte.
Exactement.
D'accord. Et justement, le réchauffement climatique favorise-t-il l'installation, alors, on en parlait aussi tout à l'heure, mais j'aimerais bien qu'on détaille, favorise-t-il l'installation ou le déplacement de certaines espèces sur notre territoire?
Oui, alors avec le réchauffement ou le dérèglement, ouais, les deux, certaines espèces vont augmenter l'horaire de répartition naturelle. Si je prends l'exemple du scorpion jaune, qui est un habitat normalement autour du bassin méditerranéen, aujourd'hui, il est décrit jusqu'à Angoulême.
Oh là, d'accord.
Donc là, c'est pas de l'impact direct de l'homme, mais indirect quand même, parce que le réchauffement, c'est pas...
Oui, bien,
voilà,
sûr. Oui.
Et donc ça, c'est une espèce typiquement qui n'a pas eu besoin de l'homme pour augmenter son aire de répartition.
Voilà, d'accord, ok. Donc il remonte dans la France, quoi.
Exactement.
Et qui peuvent envahir donc la Charente-Maritime aussi. On peut trouver
de
nouvelles espèces, finalement.
Là, aujourd'hui, il est décrit, son aire de répartition est décrit jusqu'à Angoulême.
Donc ça veut dire que chez nous, il va arriver, quoi.
Oui, oui. Après, encore plus connu, la chenille processionnaire. Hein,
ah oui, c'est vrai.
Voilà.
Et oui, effectivement.
Aujourd'hui, elle est arrivée en Belgique.
Ah oui, d'accord, très bien. Ah oui, il y a de nombreuses espèces finalement qu'on trouve peut-être communes aujourd'hui, mais qui viennent bien du sud de la France et qui remontent,
voilà,
qu'on ne trouvait pas avant, quoi.
Non.
Et ça s'est fait en très peu de temps, ça, en très peu d'années.
Ah, c'est difficile
à évaluer.
Il n'y a pas beaucoup d'observations terrain,
oui,
donc
d'accord, ok.
Difficile à estimer.
Bon, d'accord.
Donc, et puis après, on a vu les abandons sauvages, on va dire. Là, des espèces qui augmentent leur aire de répartition de façon naturelle, en fait.
Maintenant, oui.
Et puis, il y a aussi des introductions involontaires. On va dire. Je prends l'exemple de la mygale andalouse,
oui,
qui vit naturellement dans le sud de l'Espagne et nord du Maroc, qui vit normalement dans des chênaies, mais avec les incendies et les coupes forestières, elle s'est trouvée un nouvel habitat, c'est dans les racines des oliviers centenaires.
Ah,
et quand on importe des oliviers centenaires en gros containers, elles sont dans les racines.
D'accord.
Donc voilà, donc nous sur intervention pompier, on a déjà eu le cas.
D'accord. Ah bah oui.
Donc là c'est pas une introduction volontaire.
Non mais d'accord.
Mais
elles sont
voilà,
cachées dans les racines, donc elles arrivent après en France, quoi.
Voilà.
D'accord. Alors est-ce que l'homme par des actions directes cause des problèmes d'espèces en divagation? Par exemple, je ne sais pas, est-ce que le fait qu'on retrouve des animaux, alors qu'ils mettent dans leur jardin, par exemple, des tortues, hein, je pensais,
oui,
est-ce qu'on peut les retrouver en divagation?
Ah oui.
Alors est-ce qu'elles vont partir?
Oui, oui. Alors les tortues, ce sont des animaux nomades.
Oui.
Et quand on dit animal de compagnie, pour une tortue, on est un petit peu à côté. Parce que si on observe ce que fait une tortue dans un jardin, elle passe son temps à essayer de se sauver.
Mm-hmm.
Et on pourrait penser que c'est des animaux un peu encombrés avec leur carapace, mais pas du tout.
Voilà.
Ça passe partout.
Et oui. Donc même si on met dans le jardin, grillagé,
ouais,
elle trouve toujours moyen de partir.
Et puis elle va passer son temps à trouver la faille.
Ah oui, voilà.
Voilà. Et d'où l'importance d'être en situation légale de détention, c'est-à-dire avoir une puce électronique sur l'animal.
Voilà,
parce
d'accord.
En cas d'animal en divagation, on lit la puce électronique et on retrouve le propriétaire.
Voilà, très bien. Merci pour ces précisions. Alors, les réglementations, justement, sur ces animaux, peuvent-elles varier selon les départements ou c'est national ?
Oh, c'est des directives nationales.
Voilà, d'accord. Donc, c'est la réglementation pour tous les départements.
Oui,
hein,
oui.
D'accord, très bien. Et quel regard portez-vous sur l'évolution de la sensibilisation du public ces dernières années ?
C'est jamais assez,
ouais, voilà,
mais on va dans le bon sens quand même.
D'accord. Vous en faites d'ailleurs.
Bah moi j'en fais, oui, j'ai la chance d'avoir une fille qui est directrice d'école primaire. Donc,
Voilà,
donc je pense que la sensibilisation passe vraiment par les enfants, hein, c'est eux qui vont transmettre les messages futurs. Donc,
exactement.
Voilà, ça peut passer aussi par des journées portes ouvertes dans des centres de secours par exemple.
Mm-hmm. Même par vos formations aussi, où vous sensibilisez finalement.
Oui, exactement. Ouais.
Donc vous le faites vous-même.
Ouais, ouais. Et puis par vous.
Oui, bah, voilà.
Par votre émission.
Merci, oui, effectivement, je n'étais pas dessus, mais oui. Donc, c'est bien, en tout cas, ce que vous faites, parce que vous faites quand même de la sensibilisation, plus de la formation. Là, vraiment, il y a de la formation qui passe hein, dans tout le département,
ouais,
finalement. Hein. Donc, ça, c'est bien, hein, bravo, en tout cas.
Bah, merci.
Et puis, dernière question, quels sont les messages les plus importants que vous aimeriez transmettre aux auditeurs aujourd'hui?
Ah, de bien réfléchir lors de l'achat d'un animal.
Oui.
Voilà, c'est la base.
C'est la base, c'est-à-dire que ça ne marche pas sur coup de cœur.
Non.
Voilà, il faut bien réfléchir, surtout qu'il y a quand même... il faut avoir une attestation de...
Bah,
ça,
selon les espèces, oui, voilà.
La
détention nécessite une réglementation...
stricte, hein.
Bah, oui, oui.
Voilà, donc c'est pas comme ça, on n'achète pas, on ne se donne pas de main à la main
non,
un animal.
Et on ne ramène rien de voyage.
Voilà, ouais, bah, voilà. Exactement. De toute façon, je pense que ça doit être un peu contrôlé, mais sait-on jamais. Il doit y avoir beaucoup d'apports.
Tout n'est pas, vu le flux de mouvements humains, tout n'est pas contrôlé.
Oui, oui, bah, oui, d'accord, ok. Mais en tout cas, il faut bien réfléchir donc, avant d'avoir un tel animal, puisqu'il peut grossir aussi, il peut devenir de, pas dangereux, mais agressif pour certaines espèces. Ouais. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde de maîtriser ce genre d'animal. Et puis, oui, certaines espèces demandent des températures assez hautes, donc il faut avoir le budget pour la chaleur, la lumière.
Et puis, l'éleveur ou le vendeur animalier a un rôle d'information, c'est sûr, mais il ne faut pas oublier aussi que l'acheteur peut compléter ces informations-là en allant chercher ailleurs. Parce que tout n'est pas forcément dit lors de la vente de l'animal.
Ah oui, et ben voilà, donc voilà, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de se renseigner avant. Eh bien Gilles, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous faire découvrir le travail du CAPN 17 et votre travail à vous et pour nous rappeler les bons réflexes à adopter face aux animaux sauvages et exotiques. Merci à vous, auditeurs et auditrices, d'avoir suivi cette émission de Paroles d'animaux sur Demoiselle FM. À très bientôt pour une nouvelle rencontre consacrée au monde animal.
Merci Rachel. Prochaine émission, ça sera le 20 juin. Vous allez recevoir Fanny Mathiot de la maison de Loki.
Exactement, on parlera des petits animaux, des nacs, ça sera des lapins et cochons d'Inde.
Oh, c'est trop mignon.
Et notamment, voilà, les lapins surtout. Et donc, on verra tout ça par rapport à la réglementation aussi.
Très bien. Très bon week-end,
merci,
Rachel.
Merci, Pierre, et bonnes vacances à vous.
Merci. Et puis, on se retrouve dans un mois. Ça sera le 4 juillet, je crois.
Eh bien, c'est ça, exactement. Allez, bonnes vacances, Pierre, et puis bonne journée à vous tous.